La Chartreuse de Parme, livre 1, chapitre 3. Fabrice trouva bientôt des vivandières, et l'extrême reconnaissance qu'il avait pour la geôlière de B le porta à leur adresser la parole. Il demanda à l'une d'elles où était le 4e régiment de hussards auquel il appartenait. « Tu ferais tout aussi bien de ne pas tant te presser, mon petit soldat, » dit la cantinière, touché par la pâleur et les beaux yeux de Fabrice. « Tu n'as pas encore la poigne assez ferme pour les coups de sabre qui vont se donner aujourd'hui. Encore, si tu avais un fusil, je ne dis pas, tu pourrais lâcher ta balle tout comme un autre. » Ce conseil déplut à Fabrice. Mais il avait beau pousser son cheval, il ne pouvait aller plus vite que la charrette de la cantinière. De temps à autre, le bruit du canon semblait se rapprocher et les empêchait de s'entendre, car Fabrice était tellement hors de lui d'enthousiasme et de bonheur qu'il avait renoué la conversation. Chaque mot de la cantinière redoublait son bonheur en le lui faisant comprendre. À l'exception de son vrai nom et de sa fuite de prison, il finit par tout dire à cette femme qui semblait si bonne. Elle était fort étonnée et ne comprenait rien du tout à ce que lui racontait ce beau jeune soldat. « Je vois le fin mot, » s'écria-t-elle enfin d'un air de triomphe. « Vous êtes un jeune bourgeois, amoureux de la femme de quelque capitaine du 4e de hussards. Votre amoureuse vous aura fait cadeau de l'uniforme que vous portez et vous courez après elle. Ouais, comme Dieu est là-haut, vous n'avez jamais été soldat. Mais comme un brave garçon que vous êtes, puisque votre régiment est au feu, vous voulez y paraître et ne pas passer pour un capon. » Fabrice convint de tout. C'était le seul moyen qu'il eut de recevoir de bons conseils. « J'ignore toutes les façons d'agir de ces Français, » se disait-il, « et si je ne suis pas guidé par quelqu'un, je parviendrai encore à me faire jeter en prison, et l'on me volera mon cheval. » « D'abord, mon petit, » lui dit la cantinière, qui devenait de plus en plus son ami, « conviens que tu n'as pas 21 ans. C'est tout le bout du monde si tu en as 17. » C'était la vérité, et Fabrice l'avoua de bonne grâce. « Ainsi, tu n'es pas même conscrit. C'est uniquement à cause des beaux yeux de la madame que tu vas te faire casser les os. Peste, elle n'est pas dégoûtée. Si tu as encore quelques-uns de ces jaunets qu'elle t'a remis, il faut, primo, que tu achètes un autre cheval. Vois comme ta rose dresse les oreilles quand le bruit du canon ronfle d'un peu près. C'est là un cheval de paysan qui te fera tuer dès que tu seras en ligne. Cette fumée blanche que tu vois là-bas par-dessus la haie, ce sont des feux de peloton, mon petit. Ainsi, prépare-toi à avoir une fameuse venette quand tu vas entendre siffler les balles. Tu ferais aussi bien de manger un morceau tandis que tu en as encore le temps. » Fabrice suivit ce conseil et, présentant un napoléon à la vivandière, la pria de se payer. « C'est pitié de le voir !» s'écria cette femme. « Le pauvre petit ne sait pas seulement dépenser son argent. Tu mériterais bien qu'après avoir empoigné ton napoléon, je fisse prendre son grand eau à cocotte. Du diable si ta rose pourrait me suivre. Que ferais-tu, Nigo, en me voyant détaler? Apprends que, quand le brutal gronde, on ne montre jamais d'or. Tiens, lui dit-elle, voilà 18 francs 50 cents, et ton déjeuner te coûte 30 sous. Maintenant, nous allons bientôt avoir des chevaux à revendre. Si la bête est petite, tu en donneras 10 francs. Et dans tous les cas, jamais plus de 20 francs, quand ce serait le cheval des 4 fils Aymon. » Le déjeuner fini, la vivandière, qui pérorait toujours, fut interrompue par une femme qui s'avançait à travers champs et qui passa sur la route. « Hola, hé !» lui cria cette femme. « Hola, Margot ! Ton 6e léger est sur la droite. » « Il faut que je te quitte, mon petit, » dit la vivandière à notre héros. « Mais en vérité, tu me fais pitié. J'ai de l'amitié pour toi, sacrédier. Tu ne sais rien de rien. Tu vas te faire moucher comme Dieu est Dieu. Viens-t'en au 6e léger avec moi. » « Je comprends bien que je ne sais rien, » lui dit Fabrice, « mais je veux me battre et je suis résolue d'aller là-bas vers cette fumée blanche.
Regarde comme ton cheval remue les oreilles. Dès qu'il sera là-bas, quelque peu de vigueur qu'il ait, il te forcera la main. Il se mettra à galoper et Dieu sait où il te mènera.
Veux-tu m'en croire? Dès que tu seras avec les petits soldats, ramasse un fusil et une giberne. Mets-toi à côté des soldats et fais comme eux, exactement.
Mais mon Dieu, je parie que tu ne sais pas seulement déchirer une cartouche.
Fabrice, fort piqué, avoua cependant à sa nouvelle amie qu'elle avait deviné juste.
Pauvre petit, il va être tué tout de suite, vrai comme Dieu, ça ne sera pas long.
Il faut absolument que tu viennes avec moi, reprit la cantinière d'un air d'autorité.
Mais je veux me battre.
Tu te battras aussi. Va, le 6e léger est infameux, et aujourd'hui il y en a pour tout le monde.
Mais serons-nous bientôt à votre régiment?
Dans un quart d'heure, tout au plus.
Recommandé par cette brave femme, se dit Fabrice, mon ignorance de toute chose ne me fera pas prendre pour un espion, et je pourrai me battre.
À ce moment, le bruit du canon redoubla. Un coup n'attendait pas l'autre.
C'est comme un chapelet, dit Fabrice.
On commence à distinguer les feux de peloton, dit la vivandière, en donnant un coup de fouet à son petit cheval qui semblait tout animé par le feu. La cantinière tourna à droite et prit un chemin de traverse au milieu des prairies. Il y avait un pied de boue. La petite charrette fut sur le point d'y rester. Fabrice poussa à la roue. Son cheval tomba deux fois. Bientôt le chemin, moins rempli d'eau, ne fut plus qu'un sentier au milieu du gazon. Fabrice n'avait pas fait 500 pas que sa rosse s'arrêta, tout court. C'était un cadavre, posé en travers du sentier, qui faisait horreur au cheval et au cavalier. La figure de Fabrice, très pâle naturellement, prit une teinte verte fort prononcée. La cantinière, après avoir regardé le mort, dit, comme en se parlant à elle-même,
« Ça n'est pas de notre division. »
Puis, levant les yeux sur notre héros, elle éclata de rire.
« Ha ha, mon petit !» s'écria-t-elle. « En voilà du nanan !»
Fabrice restait glacé. Ce qui le frappait surtout, c'était la saleté des pieds de ce cadavre, qui déjà était dépouillé de ses souliers, et auquel on n'avait laissé qu'un mauvais pantalon, tout souillé de sang.
« Approche !» lui dit la cantinière. « Descends de cheval, il faut que tu t'y accoutumes. »«
Tiens !» s'écria-t-elle. « Il en a eu par la tête. » Une balle, entrée à côté du nez, était sortie par la tempe opposée et défigurait ce cadavre d'une façon hideuse. Il était resté avec un œil ouvert.
« Descends donc de cheval, petit !» dit la cantinière. « Et donne-lui une poignée de main pour voir s'il te la rendra. »
Sans hésiter, quoique prêt à rendre l'âme de dégoût, Fabrice se jeta à bas de cheval et prit la main du cadavre qu'il secoua ferme. Puis il resta comme anéanti. Il sentait qu'il n'avait pas la force de remonter à cheval. Ce qui lui faisait horreur surtout, c'était cet œil ouvert.
La vivandière va me croire un lâche, se disait-il avec amertume.
Mais il sentait l'impossibilité de faire un mouvement. Il serait tombé. Ce moment fut affreux. Fabrice fut sur le point de se trouver mal tout à fait. La vivandière s'en aperçut, sauta lestement à bas de sa petite voiture et lui présenta, sans mot dire, un verre d'eau de vie qu'il avala d'un trait. Il put remonter sur sa rosse et continua la route sans dire une parole. La vivandière le regardait de temps à autre du coin de l'œil.
« Tu te battras demain, mon petit, » lui dit-elle enfin. « Aujourd'hui, tu resteras avec moi. Tu vois bien qu'il faut que tu apprennes le métier de soldat. »
« Au contraire, je veux me battre tout de suite !» s'écria notre héros d'un air sombre, qui sembla de bon augure à la vivandière. Le bruit du canon redoublait et semblait s'approcher. Les coups commençaient à former comme une basse continue. Un coup n'était séparé du coup voisin par aucun intervalle. Et sur cette basse continue, qui rappelait le bruit d'un torrent lointain,
on distinguait fort bien les feux de peloton. Dans ce moment, la route s'enfonçait au milieu d'un bouquet de bois. La vivandière vit 3 ou 4 soldats des nôtres qui venaient à elle, courant à toutes jambes. Elle sauta lestement à bas de sa voiture et courut se cacher à 15 ou 20 pas du chemin. Elle se blottit dans un trou qui était resté au lieu où l'on venait d'arracher un grand arbre. « Donc, se dit Fabrice, je vais voir si je suis un lâche. » Il s'arrêta auprès de la petite voiture abandonnée par la cantinière et tira son sabre. Les soldats ne firent pas attention à lui et passèrent en courant le long du bois, à gauche de la route. « Ce sont des nôtres, » dit tranquillement la vivandière, en revenant tout essoufflée vers sa petite voiture. « Si ton cheval était capable de galoper, je te dirais pousse en avant jusqu'au bout du bois. Vois s'il y a quelqu'un dans la plaine. » Fabrice ne se le fit pas dire deux fois. Il arracha une branche à un peuplier, l'effeuilla et se mit à battre son cheval à tour de bras. La rosse prit le galop un instant, puis revint à son petit trot accoutumé. La vivandière avait mis son cheval au galop. « Arrête-toi donc ! Arrête !» criait-elle à Fabrice. Bientôt, tous les deux furent hors du bois. En arrivant au bord de la plaine, ils entendirent un tapage effroyable. Le canon et la mousqueterie tonnaient de tous les côtés, à droite, à gauche, derrière. Et comme le bouquet de bois d'où ils sortaient occupait un tertre élevé de 8 ou 10 pieds au-dessus de la plaine, ils aperçurent assez bien un coin de la bataille. Mais enfin, il n'y avait personne dans le pré au-delà du bois. Ce pré était bordé, à 1000 pas de distance, par une longue rangée de saules, très touffus. Au-dessus des saules paraissait une fumée blanche qui quelquefois s'élevait dans le ciel en tournoyant. « Si je savais seulement où est le régiment, » disait la cantinière embarrassée, « il ne faut pas traverser ce grand pré tout droit. »« À propos, toi, » dit-elle à Fabrice, « si tu vois un soldat ennemi, pique-le avec la pointe de ton sabre. Ne va pas t'amuser à le sabrer. » À ce moment, la cantinière aperçut les 4 soldats dont nous venons de parler. Ils débouchaient du bois dans la plaine à gauche de la route. L'un d'eux était à cheval. « Voilà ton affaire !» dit-elle à Fabrice. « Hola ! Oh !» cria-t-elle à celui qui était à cheval. « Viens donc ici boire le verre d'eau-de-vie !» Les soldats s'approchèrent. « Où est le 6e léger ? » cria-t-elle. « Là-bas, à 5 minutes d'ici, en avant de ce canal qui est le long des saules. Même que le colonel Macon vient d'être tué. Veux-tu 5 francs de ton cheval, toi ?»« 5 francs ? Tu ne plaisantes pas mal, petite mère. Un cheval d'officier que je vais vendre 5 napoléons avant un quart d'heure. » « Donne-moi un de tes napoléons, » dit la vivandière à Fabrice. Puis, s'approchant du soldat à cheval, « Descends vivement, » lui dit-elle. « Voilà ton napoléon. » Le soldat descendit. Fabrice sauta en selle gaiement. La vivandière détachait le petit porte-manteau qui était sur la rosse. « Aidez-moi donc, vous autres !» dit-elle au soldat. « C'est comme ça que vous laissez travailler une dame ?» Mais à peine le cheval de prise sentit le porte-manteau qu'il se mit à cabrer. Et Fabrice, qui montait fort bien, eut besoin de toute sa force pour le contenir. « Bon signe !» dit la vivandière. « Le monsieur n'est pas accoutumé au chatouillement du porte-manteau. »« Un cheval de général !» s'écriait le soldat qui l'avait vendu. « Un cheval qui vaut 10 napoléons comme un liard !»« Voilà 20 francs, » lui dit Fabrice, qui ne se sentait pas de joie de se trouver entre les jambes un cheval qui eut du mouvement. À ce moment, un boulet donna dans la ligne de saule, qu'il prit de biais. Et Fabrice eut le curieux spectacle de toutes ces petites branches volant de côté et d'autre comme rasées par un coup de faux. « Tiens, voilà le brutal qui s'avance !» lui dit le soldat en prenant ses 20 francs. Il pouvait être 2 heures. Fabrice était encore dans l'enchantement de ce spectacle curieux, lorsqu'une troupe de généraux, suivie d'une 20aine de hussards, traversèrent au galop un des angles de la vaste prairie au bord de laquelle il était arrêté. son cheval hennit, se cabra deux ou trois fois de suite, puis donna des coups de tête violents contre la bride qui le retenait. « Eh bien, soit !» se dit Fabrice. Le cheval, laissé à lui-même, partit ventre à terre et alla rejoindre l'escorte qui suivait les généraux. Fabrice compta quatre chapeaux bordés. Un quart d'heure après, par quelques mots que dit un hussard son voisin, Fabrice comprit qu'un de ses généraux était le célèbre maréchal Ney. Son bonheur fut au comble. Toutefois, il ne put deviner lequel des quatre généraux était le maréchal Ney. Il eût donné tout au monde pour le savoir, mais il se rappela qu'il ne fallait pas parler. L'escorte s'arrêta pour passer un large fossé rempli d'eau par la pluie de la veille. Il était bordé de grands arbres et terminé sur la gauche la prairie à l'entrée de laquelle Fabrice avait acheté le cheval. Presque tous les hussards avaient mis pied à terre. Le bord du fossé était à pic et fort glissant, et l'eau se trouvait bien à 3 ou 4 pieds en contrebas au-dessous de la prairie. Fabrice, distrait par sa joie, songeait plus au maréchal Ney et à la gloire qu'à son cheval, lequel, étant fort animé, sauta dans le canal, ce qui fit rejaillir l'eau à une hauteur considérable. Un des généraux fut entièrement mouillé par la nappe d'eau et s'écria en jurant « Au diable, bête !» Fabrice se sentit profondément blessé de cette injure. « Puis-je en demander raison ?» se dit-il. En attendant, pour prouver qu'il n'était pas si gauche, il entreprit de faire monter à son cheval la rive opposée du fossé. Mais elle était à pic et haute de 5 à 6 pieds. Il fallut y renoncer. Alors, il remonta le courant, son cheval ayant de l'eau jusqu'à la tête, et enfin trouva une sorte d'abreuvoir. Par cette bente douce, il gagna facilement le champ de l'autre côté du canal. Il fut le premier homme de l'escorte qui y parut. Il se mit à trotter fièrement le long du bord. Au fond du canal, les hussards se démenaient, assez embarrassés de leur position, car en beaucoup d'endroits, l'eau avait 5 pieds de profondeur. 2 ou 3 chevaux prirent peur et voulurent nager, ce qui fit un barbotement épouvantable. Un maréchal des logis s'aperçut de la manœuvre que venait de faire ce blanc-bec, qui avait l'air si peu militaire. « Remontez ! Il y a un abreuvoir à gauche » s'écria-t-il. Et peu à peu, tous passèrent. En arrivant sur l'autre rive, Fabrice y avait trouvé les généraux tout seuls. Le bruit du canon lui sembla redoubler. Ce fut à peine s'il entendit le général, par lui si bien mouillé, qui criait à son oreille. « Où as-tu pris ce cheval ?» Fabrice était tellement troublé qu'il répondit en italien « L'ho comprato poco fa. » « Je viens de l'acheter à l'instant. »«
Que dis-tu ?»
lui cria le général. Mais le tapage devint tellement fort en ce moment que Fabrice ne put lui répondre. Nous avouerons que notre héros était fort peu héros en ce moment. Toutefois, la peur ne venait chez lui qu'en seconde ligne. Il était surtout scandalisé de ce bruit qui lui faisait mal aux oreilles. L'escorte prit le galop. On traversait une grande pièce de terre labourée située au-delà du canal, et ce champ était jonché de cadavres. « Les habits rouges ! Les habits rouges !» criaient avec joie les hussards de l'escorte. Et d'abord, Fabrice ne comprenait pas. Enfin, il remarqua qu'en effet, presque tous les cadavres étaient vêtus de rouge. Une circonstance lui donna un frisson d'horreur. Il remarqua que beaucoup de ces malheureux habits rouges vivaient encore. Il criait évidemment pour demander du secours, et personne ne s'arrêtait pour leur en donner. Notre héros, fort humain, se donnait toutes les peines du monde pour que son cheval ne mît les pieds sur aucun habit rouge. L'escorte s'arrêta. Fabrice, qui ne faisait pas assez d'attention à son devoir de soldat, galopait toujours en regardant un malheureux blessé. « Veux-tu bien t'arrêter, Blanc-bec ?» lui cria le maréchal des logis. Fabrice s'aperçut qu'il était à 20 pas sur la droite, en avant des généraux, et précisément du côté où ils regardaient avec leur lorgnette. En revenant se ranger à la queue des autres hussards, restés à quelques pas en arrière, il vit le plus gros de ces généraux qui parlait à son voisin, général aussi, d'un air d'autorité et presque de réprimande. Il jurait. Fabrice ne put retenir sa curiosité. Et, malgré le conseil de ne point parler, à lui donné par son ami la geôlière, il arrangea une petite phrase bien française, bien correcte, et dit à son voisin. « Quel est-il, ce général qui gourmande son voisin ?»«
Pardi, c'est le maréchal !»«
Quel maréchal ?»«
Le maréchal Ney, bêta ! Ah, ça, où as-tu servi jusqu'ici ?»
Fabrice, quoique fort susceptible, ne songea point à se fâcher de l'injure. Il contemplait, perdu dans une admiration enfantine, ce fameux prince de la Moscova, le brave des braves. Tout à coup, on partit au grand galop. Quelques instants après, Fabrice vit, à 20 pas en avant, une terre labourée qui était remuée d'une façon singulière. Le fond des sillons était plein d'eau, et la terre, fort humide, qui formait la crête de ces sillons, volait en petits fragments noirs lancés à 3 ou 4 pieds de haut. Fabrice remarqua en passant cet effet singulier. Puis sa pensée se remit à songer à la gloire du maréchal. Il entendit un cri sec auprès de lui. C'étaient 2 hussards qui tombaient, atteints par des boulets. Et lorsqu'il les regarda, ils étaient déjà à 20 pas de l'escorte. Ce qui lui sembla horrible, ce fut un cheval, tout sanglant, qui se débattait sur la terre labourée, en engageant ses pieds dans ses propres entrailles. Il voulait suivre les autres, le sang coulait dans la boue. « Ah, m'y voilà donc enfin au feu !» se dit-il. « J'ai vu le feu !» se répétait-il avec satisfaction. « Me voici un vrai militaire !» À ce moment, l'escorte allait ventre à terre, et notre héros comprit que c'était des boulets qui faisaient voler la terre de toutes parts. Il avait beau regarder du côté d'où venaient les boulets, il voyait la fumée blanche de la batterie à une distance énorme. Et, au milieu du ronflement égal et continu produit par les coups de canon, il lui semblait entendre des décharges beaucoup plus voisines. Il n'y comprenait rien du tout. À ce moment, les généraux et l'escorte descendirent dans un petit chemin plein d'eau qui était à 5 pieds en contrebas. Le maréchal s'arrêta et regarda de nouveau avec sa lorgnette. Fabrice, cette fois, put le voir tout à son aise. Il le trouva très blanc, avec une grosse tête rouge. « Nous n'avons point des figures comme celle-là en Italie, » se dit-il. « Jamais, moi qui suis si pâle et qui ai des cheveux châtains, je ne serai comme ça, » ajoutait-il avec tristesse. Pour lui, ces paroles voulaient dire « Jamais je ne serai un héros. » Il regarda les hussards. À l'exception d'un seul, tous avaient des moustaches jaunes. Si Fabrice regardait les hussards de l'escorte, tous le regardaient aussi. Ce regard le fit rougir. Et, pour finir son embarras, il tourna la tête vers l'ennemi. C'étaient des lignes fort étendues d'hommes rouges. Mais ce qui l'étonna fort, ces hommes lui semblaient tout petits. Leurs longues files, qui étaient des régiments ou des divisions, ne lui paraissaient pas plus hautes que des haies. Une ligne de cavaliers rouges trottait pour se rapprocher du chemin, en contrebas, que le maréchal et l'escorte s'étaient mis à suivre au petit pas, pataugeant dans la boue. La fumée empêchait de rien distinguer du côté vers lequel on s'avançait. L'on voyait quelquefois des hommes au galop se détacher sur cette fumée blanche. Tout à coup, du côté de l'ennemi, Fabrice vit 4 hommes qui arrivaient ventre à terre. « Ah ! Nous sommes attaqués !» se dit-il. Puis il vit 2 de ses hommes parler au maréchal. Un des généraux de la suite de ce dernier partit au galop du côté de l'ennemi,
suivi de deux hussards de l'escorte et des quatre hommes qui venaient d'arriver. Après un canal que tout le monde passa, Fabrice se trouva à côté d'un maréchal des logis, qui avait l'air fort bon enfant. « Il faut que je parle à celui-là, » se dit-il. « Peut-être ils cesseront de me regarder. » Il médita longtemps. « Monsieur, c'est la première fois que j'assiste à la bataille, » dit-il enfin au maréchal des logis. « Mais ceci est-il une véritable bataille ?»«
Un peu. Mais vous, qui êtes-vous ?»«
Je suis frère de la femme d'un capitaine. »
« Et comment l'appelez-vous, ce capitaine ?»
Notre héros fut terriblement embarrassé. Il n'avait point prévu cette question. Par bonheur, le maréchal et l'escorte repartaient au galop. « Quel nom français dirais-je » pensait-il. Enfin, il se rappela le nom du maître de l'hôtel où il avait logé à Paris. Il rapprocha son cheval de celui du maréchal des logis et lui cria de toutes ses forces « Le capitaine Meunier !» L'autre, entendant mal à cause du roulement du canon, lui répondit « Ah, le capitaine Tellier ! Eh bien, il a été tué !»«
Bravo !» se dit Fabrice, « le capitaine Tellier, il faut faire l'affliger !»«
Ah, mon Dieu ! » cria-t-il, et il prit une mine piteuse. On était sorti du chemin en contrebas, on traversait un petit pré, on allait ventre à terre. Les boulets arrivaient de nouveau, le maréchal se porta vers une division de cavalerie. L'escorte se trouvait au milieu de cadavres et de blessés. Mais ce spectacle ne faisait déjà plus autant d'impression sur notre héros. Il avait autre chose à penser. Pendant que l'escorte était arrêtée, il aperçut la petite voiture d'une cantinière et sa tendresse pour ce corps respectable l'emportant sur tout. Il partit au galop pour la rejoindre.
« Restez donc !» lui cria le maréchal des logis.
« Que peut-il me faire ici ?» pensa Fabrice. Et il continua de galoper vers la cantinière. En donnant de l'éperon à son cheval, il avait eu quelque espoir que c'était sa bonne cantinière du matin. Les chevaux et les petites charrettes se ressemblaient fort, mais la propriétaire était tout autre, et notre héros lui trouva l'air fort méchant. Comme il l'abordait, Fabrice l'entendit qui disait « Il était pourtant bien bel homme !» Un fort vilain spectacle attendait là le nouveau soldat. On coupait la cuisse à un cuirassier, beau jeune homme de 5 pieds 10 pouces. Fabrice ferma les yeux et but coup sur coup 4 verres d'eau-de-vie.
« Comme tu y vas, gringalet !» s'écria la cantinière.
L'eau-de-vie lui donna une idée. « Il faut que j'achète la bienveillance de mes camarades les hussards de l'escorte. « Donnez-moi le reste de la bouteille, » dit-il à la vivandière.
« Mais sais-tu, » répondit-elle, « que ce reste-là coûte 10 francs un jour comme aujourd'hui ?»
Comme il regagnait l'escorte au galop,
« Ah, tu nous rapportes la goutte !» s'écria le maréchal des logis. « C'est pour ça que tu désertais. Donne !»
La bouteille circula. Le dernier qui la prit la jeta en l'air après avoir bu.
« Merci, camarade » cria-t-il à Fabrice.
Tous les yeux le regardèrent avec bienveillance. Ses regards ôtèrent un poids de 100 livres de dessus le cœur de Fabrice. C'était un de ces cœurs de fabrique trop fines qui ont besoin de l'amitié de ceux qui les entourent. Enfin, il n'était plus mal vu de ses compagnons. Il y avait liaison entre eux. Fabrice respira profondément, puis d'une voix libre, il dit au maréchal des logis « Et si le capitaine Tellier a été tué, où pourrais-je rejoindre ma sœur ?» Il se croyait un petit Machiavel de dire si bien Tellier au lieu de Meunier. « C'est ce que vous saurez ce soir, » lui répondit le maréchal des logis. L'escorte repartit, et se porta vers des divisions d'infanterie. Fabrice se sentait tout à fait enivré. Il avait bu trop d'eau-de-vie. Il roulait un peu sur sa selle. Il se souvint fort à propos d'un mot que répétait le cocher de sa mère. Quand on a levé le coude, il faut regarder entre les oreilles de son cheval et faire comme fait le voisin. Le maréchal s'arrêta longtemps auprès de plusieurs corps de cavalerie qu'il fit charger. Mais pendant une heure ou deux, notre héros n'eut guère la conscience de ce qui se passait autour de lui. Il se sentait fort là, et quand son cheval galopait, il retombait sur la selle comme un morceau de plomb. Tout à coup, le maréchal des logis cria à ses hommes. « Vous ne voyez donc pas l'empereur ?» Sur le champ, l'escorte cria « Vive l'empereur !» À tue-tête. On peut penser si notre héros regarda de tous ses yeux. Mais il ne vit que des généraux qui galopaient, suivis eux aussi d'une escorte. Les longues crinières pendantes que portaient à leur casque les dragons de la suite l'empêchèrent de distinguer les figures. Ainsi, je n'ai pu voir l'empereur sur un champ de bataille à cause de ces maudits vers d'eau de vie. Cette réflexion le réveilla tout à fait. On redescendit dans un chemin rempli d'eau. Les chevaux voulurent boire. « C'est donc l'empereur qui a passé là ?» dit-il à son voisin. « Et certainement, celui qui n'avait pas d'habit brodé. « Comment ne l'avez-vous pas vu ?» lui répondit le camarade avec bienveillance. Fabrice eut grande envie de galoper après l'escorte de l'empereur et de s'y incorporer. Quel bonheur de faire réellement la guerre à la suite de ce héros ! C'était pour cela qu'il était venu en France. « J'en suis parfaitement le maître, se dit-il, car enfin je n'ai d'autre raison pour faire le service que je fais que la volonté de mon cheval qui s'est mis à galoper pour suivre ses généraux. » Ce qui détermina Fabrice à rester, c'est que les hussards, ses nouveaux camarades, lui faisaient bonne mine. Il commençait à se croire l'ami intime de tous les soldats avec lesquels il galopait depuis quelques heures. Il voyait entre eux et lui cette noble amitié des héros du Tasse et de l'Arioste. S'il se joignait à l'escorte de l'empereur, il y aurait une nouvelle connaissance à faire. Peut-être même on lui ferait la mine, car ses autres cavaliers étaient des dragons, et lui portait l'uniforme de hussard, ainsi que tout ce qui suivait le maréchal. La façon dont on le regardait maintenant mit notre héros au comble du bonheur. Il eût fait tout au monde pour ses camarades. Son âme et son esprit étaient dans les nues. Tout lui semblait avoir changé de face depuis qu'il était avec des amis. Il mourait d'envie de faire des questions. « Mais je suis encore un peu ivre, se dit-il. Il faut que je me souvienne de la geôlière. » Il remarqua en sortant du chemin creux que l'escorte n'était plus avec le maréchal Ney. Le général qu'il suivait était grand, mince, et avait la figure sèche et l'œil terrible. Ce général n'était autre que le comte Da, le lieutenant Robert du 15 mai 1796. Quel bonheur il eût trouvé à voir Fabrice Del Dongo. Il y avait déjà longtemps que Fabrice n'apercevait plus la terre volant en miettes noires sous l'action des boulets. On arriva derrière un régiment de cuirassiers. Il entendit distinctement les biscayens frapper sur les cuirasses, et il vit tomber plusieurs hommes. Le soleil était déjà fort bas et il allait se coucher lorsque l'escorte, sortant d'un chemin creux, monta une petite pente de 3 ou 4 pieds pour entrer dans une terre labourée. Fabrice entendit un petit bruit singulier tout près de lui. Il tourna la tête. 4 hommes étaient tombés avec leurs chevaux. Le général lui-même avait été renversé, mais il se relevait, tout couvert de sang. Fabrice regardait les hussards jetés par terre. 3 faisaient encore quelques mouvements convulsifs. Le 4e criait « Tirez-moi de dessous !» Le maréchal des logis et 2 ou 3 hommes avaient mis pied à terre pour secourir le général, qui, s'appuyant sur son aide de camp, essayait de faire quelques pas. Il cherchait à s'éloigner de son cheval, qui se débattait renversé par terre, et lançait des coups de pied furibonds. Le maréchal des logis s'approcha de Fabrice. À ce moment, notre héros entendit dire derrière lui et tout près de son oreille « C'est le seul qui puisse encore galoper !» Il se sentit saisir les pieds.
on les élevait en même temps qu'on lui soutenait le corps par-dessous les bras. On le fit passer par-dessus la croupe de son cheval, puis on le laissa glisser jusqu'à terre, où il tomba assis. L'aide de camp prit le cheval de Fabrice par la bride. Le général, aidé par le maréchal des logis, monta et partit au galop. Il fut suivi rapidement par les 6 hommes qui restaient. Fabrice se releva furieux et se mit à courir après eux en criant « Ladri ! Ladri !
Voleur ! Voleur !»
Il était plaisant de courir après des voleurs au milieu d'un champ de bataille. L'escorte et le général, comte Da, disparurent bientôt derrière une rangée de saules. Fabrice, ivre de colère, arriva aussi à cette ligne de saules. Il se trouva tout contre un canal fort profond qu'il traversa. Puis, arrivé de l'autre côté, il se mit à jurer en apercevant de nouveau, mais à une très grande distance, le général et l'escorte qui se perdaient dans les arbres.
« Voleur ! Voleur ! » criait-il maintenant en français.
Désespéré, bien moins de la perte de son cheval que de la trahison, il se laissa tomber au bord du fossé, fatigué et mourant de faim. Si son beau cheval lui eût été enlevé par l'ennemi, il n'y eût pas songé. Mais se voir trahir et voler par ce maréchal des logis qu'il aimait tant, et par ses hussards qu'il regardait comme des frères, c'est ce qui lui brisait le cœur. Il ne pouvait se consoler de tant d'infamie. Et, le dos appuyé contre un saule, il se mit à pleurer à chaudes larmes. Il défaisait un à un tous ses beaux rêves d'amitié chevaleresque et sublime, comme celle des héros de la Jérusalem délivrée. Voir arriver la mort n'était rien, entouré d'âmes héroïques et tendres, de nobles amis qui vous serrent la main au moment du dernier soupir. Mais garder son enthousiasme, entouré de vils fripons, Fabrice exagérait comme tout homme indigné. Au bout d'un quart d'heure d'attendrissement, il remarqua que les boulets commençaient à arriver jusqu'à la rangée d'arbres à l'ombre desquels il méditait. Il se leva et chercha à s'orienter. Il regardait ces prairies bordées par un large canal et la rangée de saules touffus. Il crut se reconnaître. Il aperçut un corps d'infanterie qui passait le fossé et entrait dans les prairies, à un quart de lieue en avant de lui. « J'allais m'endormir, se dit-il. Il s'agit de n'être pas prisonnier. » Et il se mit à marcher très vite. En avançant, il fut rassuré. Il reconnut l'uniforme. Les régiments par lesquels il craignait d'être coupé étaient français. Il obliqua à droite pour les rejoindre. Après la douleur morale d'avoir été si indignement trahi et volé, il en était une autre qui à chaque instant se faisait sentir plus vivement. Il mourait de faim. Ce fut donc avec une joie extrême qu'après avoir marché, ou plutôt couru pendant 10 minutes, il s'aperçut que le corps d'infanterie, qui allait très vite aussi, s'arrêtait comme pour prendre position. Quelques minutes plus tard, il se trouvait au milieu des premiers soldats. « Camarade, pourriez-vous me vendre un morceau de pain ?»« Tiens, cet autre qui nous prend pour des boulangers !» Ce mot dur et le ricanement général qui le suivit accablèrent Fabrice. La guerre n'était donc plus ce noble et commun élan d'âme amante de la gloire qu'il s'était figuré d'après les proclamations de Napoléon. Il s'assit, ou plutôt se laissa tomber sur le gazon. Il devint très pâle. Le soldat qui lui avait parlé et qui s'était arrêté à 10 pas pour nettoyer la batterie de son fusil avec son mouchoir s'approcha et lui jeta un morceau de pain. Puis, voyant qu'il ne le ramassait pas, le soldat lui mit un morceau de ce pain dans la bouche. Fabrice ouvrit les yeux et mangea ce pain sans avoir la force de parler. Quand enfin il chercha des yeux le soldat pour le payer, il se trouva seul. Les soldats les plus voisins de lui étaient éloignés de 100 pas et marchaient. Il se leva machinalement et les suivit. Il entra dans un bois. Il allait tomber de fatigue et cherchait déjà de l'œil une place commode. Mais quelle ne fut pas sa joie en reconnaissant d'abord le cheval, puis la voiture et enfin la cantinière du matin. Elle accourut à lui et fut effrayée de sa mine. « Marche encore, mon petit, lui dit-elle. Tu es donc blessé? Et ton beau cheval ?» En parlant ainsi, elle le conduisait vers sa voiture, où elle le fit monter, en le soutenant par-dessous les bras. À peine dans la voiture, notre héros, excédé de fatigue, s'endormit profondément.